RCF.
Bonjour à tous, nous sommes avec Stéphane Jacquet, spécialiste de la bataille de Normandie. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Nous sommes devant une grande carte de la Normandie, nous donnant une vue d'ensemble de cette bataille qui s'est déroulée du 7 juin au 29 août 1944. Le plan de la bataille de Normandie a donc été conçu plusieurs mois en amont du débarquement, avec des objectifs ambitieux. Quels étaient, monsieur Jacquet, ses objectifs au matin du 6 juin ?
Oui, parce qu'on va parler beaucoup de la bataille de Normandie, mais en fait, on n'aurait pas dû avoir de bataille de Normandie si les objectifs initiaux des Alliés avaient été atteints. Donc, on connaît donc les cinq plages de débarquement. Ces cinq plages et les unités qui vont débarquer sur ces cinq plages avaient des objectifs précis, avec une volonté des Alliés de sortir rapidement de la tête de pont pour atteindre rapidement la Seine et notamment Paris et repousser en fait les unités allemandes et les occupants allemands vers les frontières du rail. Et donc, on va découvrir le plan de bataille. Et ce plan de bataille donc repose sur cinq plages de débarquement. Initialement, nous n'avons pas cinq plages de débarquement. Donc, cinq plages de débarquement et des zones de protection des flancs de ces plages de débarquement, avec donc des parachutages de parachutistes donc en secteur anglo-canadien et en secteur américain. Donc déjà, première plage, si on commence par l'estuaire de l'Orne, donc Sword Beach, l'objectif des unités britanniques qui vont débarquer ici, donc le premier corps britannique, c'est de prendre la ville de Caen, qui est la ville à la fois symbole, mais surtout une ville stratégique, pour pouvoir s'aligner vers la Seine. Donc Caen doit être pris le 6 juin, donc le jour J. On voit bien que les objectifs sont ambitieux, mais bon, on expliquera sans doute pourquoi. Ensuite, donc Juneau, la plage donc canadienne. L'objectif des unités canadiennes, c'est donc de flanquer la poussée principale vers Caen, de prendre l'aérodrome de Carpiquet et de couper la nationale 13, donc vers de Caen-Cherbourg, qui est une nationale qui joue un rôle très important pour la logistique allemande pour approvisionner ce qui va devenir le futur front. Ensuite, nous avons Gold Beach, où donc là également nous retrouvons des unités britanniques. Donc c'est le 30e corps britannique qui doit débarquer ici, avec là aussi un objectif de flanquer la poussée principale et de surtout donc de pouvoir également couper la N13, donc atteindre la N13, prendre Bayeux dès le 6 juin et le 7 juin. Donc là aussi des objectifs très ambitieux, d'atteindre Villers-Bocage. Donc on est 25 km dans les terres, donc le 7 juin, donc jour J plus 1. Pour pouvoir, Villers-Bocage, c'est un point, on en reparlera, un point très important, puisque c'est une ville qui se trouve sur à l'époque, la N175, qui est la route qui va conduire Caen vers le Mont-Saint-Michel, aujourd'hui la A84. Et donc, l'objectif, c'est d'atteindre le Villers-Bocage pour pouvoir remonter par la N175 et se retrouver dans les faubourgs sud de Caen pour parachever la prise de Caen. Donc ça, c'est les objectifs des unités anglo-canadiennes qui débarquent sur les trois plages anglo-canadiennes.
Vous nous donnez donc les objectifs pour l'est de la Normandie, avec comme principaux prendre rapidement les grands axes, également se saisir des grandes villes, notamment celle de Caen. Et qu'en est-il du secteur américain plus à l'ouest ?
Le secteur américain, les unités américaines, elles ont également leurs objectifs. Donc le premier objectif des unités américaines, c'est de prendre Cherbourg. L'objectif étant d'avoir un port le plus rapidement possible pour pouvoir accompagner les unités qui vont prendre pied sur le territoire français. Donc les unités qui débarquent à Utah Beach, les unités américaines, vont avoir pour objectif de prendre Cherbourg en coupant le Cotentin, et donc en faisant en sorte que Cherbourg ne soit plus approvisionné par à la fois la N13, mais également le sud Manche. Également, les unités donc à Omaha ont également pour objectif, là aussi, donc de flanquer la poussée principale, parce qu'encore une fois, les unités américaines, leur objectif, c'est prendre Cherbourg. Et bien sûr, d'atteindre également la N13 pour pouvoir la couper, au même titre que les unités britanniques. Donc nous avons des objectifs qui sont ambitieux, très ambitieux, et malheureusement, Ces objectifs ne vont pas être atteints le jour J. Et donc, nous allons avoir une bataille de Normandie qui va durer plus de 3 mois, alors que les objectifs tels qu'ils étaient annoncés auraient dû permettre une sortie de la tête de pont normande beaucoup plus rapidement et donc éviter le drame de la bataille de Normandie.
Et on peut prendre par exemple comme illustration le commando Kieffer qui devait rester seulement quelques jours en Normandie, qui finalement il resta jusque fin août. Enfin, c'est...
Exactement. Donc le commando Kieffer qui est rattaché au 4e commando donc britannique, le commando Kieffer doit prendre la zone du casino de Ouistreham et surtout le plus rapidement possible avec les unités du 4e commando atteindre donc le l'Orne et se retrouver donc sur le Pegasus Bridge pour protéger le flanc britannique de toute contre-attaque. Et donc, étant donné que Caen doit être pris rapidement, les faubourgs de Caen très rapidement, pouvoir s'aligner sur la plaine de Caen, bah oui, ces unités commando ne devaient être engagées que pour la partie 6 juin, 7 juin, et ensuite être retirées du front. C'est pas ce qui va se passer, puisqu'en fait, on verra, la bataille de Normandie fera en sorte que oui, ils vont rester sur la tête de pont, à protéger la tête de pont pendant quasiment 2 mois.
Donc là, nous sommes désormais le 7 juin. Est-ce que ces objectifs ont été atteints finalement ?
Alors malheureusement non. C'est ce que je vous disais précédemment, c'est que nous allons avoir la bataille de Normandie parce que ces objectifs n'ont pas été atteints. Il faut revenir à la doctrine de défense allemande. Dans la zone, donc la Normandie et donc toute cette zone, la zone de débarquement, c'est une zone en fait qui est essentiellement basée sur le repos des unités allemandes qui combattent sur le front de l'Est. À partir donc de 43, les Alliés savent qu'il va falloir débarquer sur le continent, l'ouest de l'Europe, pour pouvoir faire en sorte de prendre dans une nasse le régime nazi et puis donc les unités allemandes entre le front de l'Est et le front de l'Ouest. Deux doctrines s'affrontent au niveau du haut commandement allemand, entre von Rundstedt, qui commande l'ensemble du dispositif à l'ouest de l'Europe pour le régime nazi, qui, lui, a pour objectif de faire en sorte que ses réserves stratégiques se placent le plus éloigné des plages, parce qu'il ne sait pas où doit se dérouler le débarquement. Ce n'est pas la doctrine du Feldmarschall Rommel, qui, lui, a combattu les Alliés en Afrique du Nord, et lui s'est rendu compte qu'il est fondamental d'être au plus proche des objectifs, notamment en défense, mais également en attaque, parce qu'il a constaté la maîtrise aérienne alliée, dévastatrice. Donc, lui, ce qu'il souhaite, c'est placer au plus proche les unités d'élite. Et notamment, il estime que la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais est quand même les zones les plus menacées. Et donc, il souhaite placer au plus proche, ce qui s'appelle le 1er SS Panzer Corps, qui va jouer un rôle très très important dans le blocage des unités alliées en Normandie. Il souhaite les placer au plus proche du front.
Donc si on résume, von Rundstedt, il ne sait pas où vont débarquer les alliés, donc sa stratégie, c'est on stationne dans les terres, loin des plages, pour pouvoir manœuvrer au bon endroit le jour J. Rommel, de son côté, lui, il connaît les alliés, il les a déjà combattus. Lui, c'est un partisan de l'idée sur la plage, au plus proche, et si on ne les repousse pas le plus vite possible, ce sera perdu. Et Rommel a même dit en avril 1944, en inspectant les plages, « Si vous pensez qu'ils arriveront par beau temps, en empruntant l'itinéraire le plus court et qu'ils vous préviendront à l'avance, vous vous trompez, les alliés débarqueront par un temps épouvantable, en choisissant l'itinéraire le plus long, le débarquement aura lieu ici, en Normandie, et ce sera le jour le plus long. » Comme quoi, Rommel s'était vraiment mis dans la tête des Alliés, et finalement, il avait vu juste.
C'est von Rundstedt qui va l'emporter, et lui va placer les unités assez éloignées du front, donc le 1er SS Panzer Corps, qui se retrouve dans des zones allant jusqu'au Mans, la zone d'Evreux, donc on est vraiment très éloigné du front, à 200, 250, 300 km du front. Et donc ces unités, le 6 juin, ne sont pas présentes sur le front. Sont présentes donc des unités d'infanterie, souvent avec ce qu'on appelle des Osttruppen, donc des unités qui viennent de l'Empire soviétique, souvent, qui alors sont plus ou moins volontaires, souvent pas très volontaires. Ces unités qui vont être là et qui vont prendre le premier choc, mais qui ne sont pas des unités d'élite, et donc très peu d'unités blindées. Une seule unité qui dispose de chars, donc la 21e Panzer, et qui est donc placée à proximité des plages. Il a réussi à obtenir cela, Rommel. Et cette 21e Panzer va jouer un rôle très très important pour bloquer la percée britannique vers Caen. Mais vous n'avez pas d'unité d'élite, de Panzer d'élite. Ces unités vont arriver progressivement sur le front dès lors que les Allemands vont considérer que réellement il se passe quelque chose en Normandie. Et donc dès le 7 juin, le 6 juin, il y a peu de réactions. Le 7 juin, le haut commandement allemand se dit « Bon, là, manifestement, ça semble être sérieux, et donc il faut qu'on envoie nos troupes d'élite. » Mais ces unités arrivent de manière totalement dispersée. Et donc, on peut se dire bah, « Finalement, pourquoi les alliés n'ont pas atteint ces objectifs alors que finalement les unités d'élite n'étaient pas encore arrivées sur le front ?» Alors, plusieurs raisons. Et la principale raison, c'est la doctrine d'emploi des unités britanniques. Il faut se remettre dans le contexte. Les Britanniques ont une difficulté à l'époque, en 1944, c'est que les hommes manquent. Et le haut commandement britannique reçoit l'ordre de préserver les hommes. Donc de mettre en avant davantage les véhicules, et notamment les blindés. Donc la prise d'initiative au niveau des troupes britanniques est relativement faible. Deuxième élément, le haut commandement britannique donne pour instruction donc, aux officiers de proximité de pouvoir progresser dès lors que toute la logistique est arrivée sur place. Or, ce qui va se produire, et donc ça, il y a une sous-estimation du côté des alliés, c'est que sur les plages, pour sortir des plages, vous allez voir aujourd'hui, hein, ça a très peu changé, on comprend très rapidement que quand on a énormément de véhicules qui arrivent dans une zone avec énormément d'hommes, si la première vague ne progresse pas plus vers l'intérieur et qu'elle reste à proximité des plages, bah, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, il va y avoir donc des embouteillages monstres. La sortie des plages ne va pouvoir se faire que le 6 juin au soir, voire le 7 juin matin. Et dès lors qu'ils arrivent à sortir des plages, les Britanniques et les Anglo-Canadiens arrivent à progresser, puisque les unités allemandes d'élite ne sont pas encore là. Elles vont arriver progressivement. D'où Bayeux, qui est libéré dès le 7 juin matin, sont vraiment tirés de coups de feu, donc qui est préservé. Donc ça, c'est dans la zone de Gold Beach, Juneau. Pour South Beach, je vous ai parlé d'une unité, donc la 21e Panzer qui est dans la zone. Dès lors qu'ils vont franchir les hauteurs et atteindre les faubourgs, finalement, les faubourgs nord de Caen, ils vont être bloqués par les unités de la 21e Panzer et donc ne vont pas atteindre Caen, comme prévu le 6 juin.
Effectivement, la ville de Caen a été prise le 19 juillet, soit 6 semaines après le débarquement. On voit donc l'enlisement qu'ont subi les alliés. Donc c'était vraiment des objectifs très ambitieux. Là, nous sommes actuellement devant une carte. On voit en rouge les faibles percées alliées. Effectivement, la ville de Bayeux a été prise rapidement, mais cependant, les alliés peinent à avancer. En tout cas, un grand merci Stéphane Jacquet. On se retrouve demain pour le troisième épisode de cette impression normande sur le musée mémorial de Bayeux de la bataille de Normandie. Pour cet épisode, nous allons donc découvrir les avancées, retraites, bref, toutes les opérations qui se sont déroulées durant la fin du mois de juin 1944. Nous sommes devant une grande carte de la région et des plages de débarquement, datée du 12 juin. Pouvez-vous nous en dire plus, Monsieur Jacquet, sur cette bataille qui commence à prendre forme ?
Nous avons donc dépassé le 7 juin, la bataille va prendre de l'ampleur. Comme je vous l'expliquais, les unités allemandes, donc notamment le 1er SS Panzer Corps, contre-attaquent. Son objectif, c'est de repousser les alliés à la mer. Donc en contournant Caen et en se retrouvant dans une zone entre Caen et Bayeux, au niveau du Bessin, pour atteindre les plages et donc repousser à la fois les Britanniques et les Canadiens, puis ensuite, une fois que les Anglo-Canadiens sont repoussés, se retourner vers la première armée américaine et donc pouvoir l'anéantir. Donc dès le 7 juin, comme je vous l'expliquais, il y a des unités qui arrivent sur le front. Le gros de la troupe arrive entre le 8 et le 9 juin. et va finalement atteindre assez rapidement les zones donc atteintes elles-mêmes par les unités anglo-canadiennes et va contre-attaquer très fortement sur la N-13. Mais l'unité canadienne, qui elle-même cherche à progresser vers le sud, vont bloquer la contre-attaque allemande dans cette zone-là et qui donc va rester une zone de combat jusque début juillet. Et donc des combats des combats titanesques ici, donc ce qu'on va appeler la bataille de Caen. Donc c'est la bataille de l'ouest de Caen, à l'ouest de Caen, avec donc cette zone au nord, au nord-ouest, donc sur la N-13.
Les Allemands tentent donc de contre-attaquer, mais les Alliés, eux, tiennent bon, ce qui crée des zones de combat et de lourds dégâts. On voit que les Alliés commencent donc à s'approcher de Caen dès la fin du mois de juin. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot à présent de la prise de Bayeux, qui, elle aussi, a été un sacré épisode ?
Parallèlement, la Panzerlehr, donc la deuxième composante de la première, du premier SS Panzer Corps, va contre-attaquer également, avec pour objectif principal Bayeux, donc reprendre Bayeux et donc atteindre la zone des plages, donc dans le secteur de Gold. La Panzerlehr progresse là aussi assez facilement, puisque les Alliés n'ont pas encore atteint leur objectif, et donc va progresser autour de Tilly-sur-Sol, va traverser la Solle et va atteindre les faubourgs de Bayeux. Donc dès le 8 juin, donc à Arganchy, donc c'est le faubourg de Bayeux, et là le commandant de la division, donc Fritz Bayerlein, constate que à Bayeux, bah en fait il y a peut-être des soldats britanniques, mais on les voit pas, on voit la cathédrale, et donc il y a peu de choses, et donc il prévient le haut commandement, donc le feldmaréchal Rommel, qu'il connaît très bien puisque c'était son chef d'état-major dans le désert, pendant la guerre du désert, et donc le prévient en disant bon, on va atteindre Bayeux. Moi dès demain matin, donc dès le 9 juin, j'atteins Bayeux, et puis bon bah manifestement il n'y a pas beaucoup de soldats face à moi, donc je vais pouvoir atteindre les plages. Or, et là il va être surpris, pendant très longtemps il n'a pas compris pourquoi il a reçu l'ordre de se replier. Parce que lui, il n'avait rien en face et lui, il pensait qu'il pouvait atteindre ses objectifs. Sauf que Rommel, lui, il a une vision globale du front et il se rend compte de quoi ? Il se rend compte que les Anglo-Canadiens, ils progressent. Elles progressent rapidement de l'autre côté de la Solle et elles atteignent le 8 juin, donc les hauteurs, au-delà de la Solle, donc à Audrieux. Et donc ces unités, bah, si elles arrivent à traverser la Solle à Tilly-sur-Solle, elles vont couper les lignes de communication de la Panzerlehr. Ça, Fritz Bayerlein ne le voit pas, mais Rommel le voit. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à la division de se replier. Elle va se replier à Tilly-sur-Sol. Et donc, va être constitué ce qu'on va appeler le front de Tilly-sur-Sol, une zone d'à peu près 20 km à l'ouest de Caen, et qui va être en fait une zone de combat pendant quasiment un mois et demi.
Voilà, si on résume un peu cette bataille de Normandie, pour l'instant, on comprend qu'il y a beaucoup d'allers-retours, notamment voilà, d'attaques, de contre-attaques, notamment sur la zone de Tilly-sur-Sol. Les objectifs ne sont pas atteints, les alliés patinent un petit peu, et malheureusement, évidemment, les civils ne sont pas épargnés. Et si on parle un petit peu de l'environnement dans lequel les alliés ont évolué, est-ce qu'ils s'attendaient à tomber sur ce bocage, sur ces marécages, ce qu'ils ont appelé l'enfer normand ?
Alors oui, c'est très important de parler de l'environnement, notamment de la géographie, parce qu'en fait, comme vous l'avez évoqué, le bocage normand va jouer un rôle considérable, et en fait, il permet et il facilite la défense. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles les alliés, alors pas les premiers jours, mais par la suite, vont avoir autant de difficultés pour pouvoir progresser vers le sud et vers l'ouest et prendre Caen. Et vous avez vraiment beaucoup de zones de bocage. Et le bocage, ça permet la défense. Pourquoi ? Première chose, les chemins creux permettent donc de bloquer des colonnes de véhicules assez facilement. Il suffit de détruire le véhicule de tête pour bloquer la colonne. Et également, les champs donc, qui sont séparés par les haies vont pouvoir donc accueillir notamment des zones de mitrailleuses hein, et qui vont permettre de bloquer la progression d'unités entières uniquement au niveau des champs.
En fait, ça permet toutes les haies bocagères permettent en fait de voir sans être vu, ce qui fait que les unités sont à portée de tir des Allemands.
Exactement. Il faut également, en ce qui concerne l'armée britannique, avoir en tête que les unités qui débarquent et qui vont combattre en Normandie dans un premier temps, les premiers temps de la bataille, sont des unités qui ont déjà combattu depuis les années 40, et donc qui sont épuisées. Et ils ont combattu sur des théâtres d'opération totalement différents. Donc il va falloir réadapter la doctrine d'emploi des armées, et c'est la raison pour laquelle ça prend autant de temps donc pour progresser vers le sud, et encore une fois, atteindre les objectifs initiaux, je le rappelle, Caen, Cherbourg.
Il y a un risque d'enlisement pour les alliés ?
le haut commandement allié prend conscience du fait qu'il va falloir changer la stratégie, donc avec toujours cet objectif de prendre Caen, mais on sait bien la difficulté qu'il y a de prendre Caen, et donc avec une volonté de fixer donc les unités allemandes dans le secteur anglo-canadien, donc autour de Caen, pour pouvoir obtenir une percée du côté américain. Donc c'est ce qui va s'appeler l'opération Cobra, qui va être lancée le 25 juillet avec un nouvel entrant sur le front américain, donc le général Patton. Les anglo-canadiens prennent finalement Caen, avec vraiment de lourdes destructions.
On l'évoquait d'ailleurs dans les précédents épisodes, la ville de Caen, qui devait être prise le 6 juin au soir dans les plans initiaux, a finalement, on le voit sur cette carte, été prise le 19 juillet.
Le haut commandement allié lance l'opération Cobra avec cette volonté de percer à l'ouest, ce qui va être fait. Donc les moyens utilisés sont colossaux, nous avons un soutien aérien massif et le front allemand va céder. Ce qu'on va appeler la percée d'Avranches. Cette opération Cobra permet d'atteindre très rapidement Avranches et donc de sortir finalement de la Normandie pour les troupes américaines sortent rapidement de la zone de front et vont atteindre très rapidement la Bretagne, avec une volonté là pour les Américains de prendre là aussi donc toujours le rôle des ports. Le problème, c'est que les Allemands ont conscience de cela et vont protéger très fortement et vont de créer des forteresses autour des ports et vont les protéger jusque pour certains la fin de la guerre, donc en mai 45. Donc il y a une prise de conscience des Américains de la difficulté de prendre les ports, et de toute façon ils ont déjà une expérience. Le port de Cherbourg, donc qui a été pris le 26 juin, a été détruit. Donc même s'ils prennent les ports, ils seront détruits. Il y aura donc plusieurs mois avant de pouvoir les utiliser.
Donc là, nous nous retrouvons devant une autre carte sur le 25 juin. Donc on voit effectivement que le orange signifiant les positions alliées progresse. On voit que ça commence à se diffuser sur toute la Normandie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette progression alliée et des combats qui se sont déroulés ?
Les unités américaines connaissent les plus grandes difficultés. Elles arrivent finalement, après de très très lourds combats, pour Montebourg, Valognes, à progresser vers Cherbourg, qui va tomber le 26 juin. Donc Cherbourg est pris, mais, comme il fallait s'y attendre, le port est totalement dévasté. Il a été détruit par les défenseurs allemands. Et donc il est inutilisable. C'est la raison pour laquelle l'idée initiale, qui était de faire venir un port, ou en l'occurrence plutôt deux ports, donc un pour le secteur américain et le deuxième pour le secteur britannique, donc les fameux Mulberry, donc ces fameux ports artificiels, vont jouer un rôle encore plus important. Compte tenu du fait que Cherbourg n'est pas utilisable avant plusieurs mois. Les Américains, après avoir pris Cherbourg, coupent en deux la presqu'île du Cotentin, et donc vont s'aligner pour progresser vers le sud, l'objectif étant d'atteindre rapidement la zone entre Coutances et Saint-Lô. Saint-Lô qui va être là aussi, va subir les affres de la guerre, qui va devenir la capitale des ruines, qui finalement sera prise, mais au prix de vraiment de lourdes pertes, à la fois du côté civil et du côté des troupes américaines. Et donc cette zone, c'est ce qu'on va appeler la bataille des haies, avec vraiment une très grande difficulté pour les Américains de progresser quasiment tout le mois de juillet. Les objectifs, un des objectifs principaux est atteint, mais finalement il ne permet pas remplir totalement la fonction pour laquelle il avait été mis en place. Et les Anglo-Canadiens sont toujours bloqués, donc à l'ouest de Caen, au nord de Caen. Et donc les objectifs, encore une fois, du 6 juin, du 6 et 7 juin, qui étaient de s'aligner vers l'est, ne peuvent pas être atteints.
Nous allons explorer la fin de ce grand volet de la Seconde Guerre mondiale en 1944, et surtout la poche de Falaise-Chambois. Pouvez-vous nous en dire plus, Monsieur Jacquet, sur la fin de cette grande bataille ?
Alors, nous arrivons à la fin de la bataille de Normandie. Donc, les armées allemandes ont tenté une contre-attaque et couper donc l'élan américain vers la Bretagne. Cette tentative a échoué, donc l'armée allemande se replie. Elle résiste toujours au nord de Falaise, mais des opérations vont être lancées donc par l'armée canadienne, donc opération Tractable, opération Total Eyes, vers Falaise, donc poussée au nord vers Falaise. L'armée britannique a lancé l'opération Blue Coat pour accompagner Cobra. Elle progresse également, alors difficilement, hein, les Allemands se replient encore une fois en bon ordre et donc établissent des lignes de défense successives. Et l'armée américaine, donc, qui là aussi a toujours l'objectif initial à atteindre la Seine, va lancer un certain nombre de ses fers de lance vers la Seine, va atteindre Mantes-la-Jolie et donc la zone de la Seine. Donc à l'entour du 23-24 août, sachant qu'elle envoie également, parce qu'il y a cette opportunité d'encercler l'armée allemande en Normandie, donc des troupes donc au nord, en poussant vers Argentan et donc Falaise, hein, l'objectif étant une zone entre Falaise-Chambois. Et donc le point de convergence de toutes les armées alliées, donc que ce soit la première armée canadienne, la deuxième armée britannique, la première armée US, la troisième armée américaine, c'est de converger vers ce point et donc de fermer et d'encercler totalement l'armée allemande, donc la septième armée allemande.
Donc devant nous, la carte est assez claire, elle montre la ligne de front le 18 août 1944 au matin. Donc on voit effectivement que tous les corps d'armée alliés, donc pour les Britanniques, qui arrivent vers l'est, les Américains reviennent vers le sud, et les Canadiens, eux, arrivent du nord, et tous les alliés convergent vers un point, la poche de Falaise-Chambois, où on voit très clairement que les Allemands se retrouvent prisonniers. Donc ce qu'on appelle la poche de Falaise, cette bataille durera du 12 au 21 août.
L'armée allemande, encore une fois, essayant de se replier en bon ordre et d'essayer de sortir ses unités d'élite de cette nasse pour pouvoir rapidement atteindre la Seine, éventuellement la défendre, mais très rapidement ils vont se rendre compte que cette zone est très difficilement défendable, et donc finalement de se replier le plus rapidement vers les frontières du Reich pour essayer de préserver ce qui est préservable et surtout de réorganiser une défense aux frontières du Reich. Donc cet épisode va être une très très sanglant pour l'armée allemande, mais l'armée allemande va parvenir à faire sortir bon nombre de ses troupes qui vont pouvoir se reconstituer pour ensuite faire face à la percée alliée à l'est. Nous allons avoir des actes d'héroïsme de côtés. Du côté allié, donc il y a une volonté vraiment de fermer cette poche. Et donc l'armée canadienne et donc une division, notamment une division polonaise, première division blindée polonaise du général Maciek, va jouer un rôle assez considérable donc dans la zone de Chambois, du Mont Ormel, pour tenter de faire en sorte d'encercler définitivement. Mais les Allemands, les unités allemandes d'élite qu'on a évoquées, hein, donc notamment le 2e SS Panzer Corps, avec des unités tristement célèbres, dont la division Das Reich, va sortir de la poche pour pouvoir venir contre-attaquer les positions alliées. Donc les positions alliées qui normalement devaient être encerclées vont être elles-mêmes encerclées, notamment la division polonaise. Il va y avoir vraiment des actes d'héroïsme, mais la poche ne sera jamais totalement fermée. Et donc une grande partie des unités allemandes vont pouvoir se replier et se retrouver. Elles se retrouveront dans les batailles qui vont intervenir donc à partir de septembre à l'est et au nord également. Les unités du 2e SS Panzer Corps vont se retrouver face aux Britanniques qui vont lancer l'opération Market Garden de la Belgique vers les Pays-Bas, et notamment ce qui va se passer à Arnhem. Et donc le 2e SS Panzer Corps, qui aurait dû être anéanti en Normandie, finalement se retrouve à ne pas mettre fin à la guerre. L'objectif étant de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Si on peut imaginer que si l'armée allemande avait été totalement anéantie en Normandie, la guerre aurait sans doute pu se terminer en décembre 1944 et non pas en mai.
Donc par cette carte, en fait, on se rend très bien compte de l'enlisement vraiment des armées. On voit 12, 16 août, le front voit la peine un peu du côté de Vire, Mortain, Caen. Et en fait, une fois le 20 août passé et cette poche de Falaise, en fait, on voit que les armées avancent considérablement, avancent beaucoup plus rapidement. Le 20 août, enfin, la Normandie est libérée. La prise de Paris le 25 août. Et comme vous me disiez tout à l'heure, enfin, les Alliés sont en Belgique le 3 septembre. tout cas, un grand merci à Monsieur Jacquet. Voilà, cet épisode était la clôture de cette impression normande autour du musée mémorial sur la bataille de Normandie. Un grand merci pour toutes vos explications passionnantes et votre éclairage. Et puis voilà, on espère vous retrouver bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, monsieur.
Je vous remercie beaucoup.